partie Radio Grand Ciel, studio de Châteaudun. Pour notre émission Écho de ma commune, nous accueillons aujourd'hui Monique Leguyadère. Bonjour Monique.
Bonjour.
Au micro, c'est Henri et puis aussi Jean-Claude. Et puis à la technique, c'est Jean-Marie. Alors, Monique, vous avez longtemps travaillé au centre hospitalier de Châteaudun. C'est pour ça donc, que vous allez faire écho de notre commune avec votre vécu. Et c'est à cet endroit que je vous ai connu et, je dois ajouter, apprécié. Vous avez eu une vie très riche et nous avons pensé que nos auditeurs de Radio Grand Ciel seraient heureux que vous veniez partager votre vécu avec nous. Donc, vous avez un patronyme breton, mais vous êtes né en Normandie.
Oui.
Et puis, racontez-nous un peu pourquoi vous êtes venu à Châteaudun d'abord.
Eh bien, je suis venu à Châteaudun par accident. Voilà. Parce que, j'avais une grave maladie, c'est-à-dire qui avait nécessité l'ablation d'un rein, à la suite de quoi j'avais fait un édème cérébral. Bref, toujours est-il, j'étais suivie sur Paris. Sur Paris, parce qu'on ne savait pas d'où venait cette atteinte rénale. Et on me faisait des artériographies, parce qu'à l'époque, c'était très compliqué. C'est pas comme maintenant avec les scanners. Donc, j'étais chez ma sœur Liliane, qui me conduisait à Paris pour mes examens. J'étais un an arrêtée, n'est-ce pas? Et après, comme je devais toujours, de temps en temps, avoir des contrôles sur Paris, je me suis présentée à l'hôpital de Châteaudun pour être infirmière. Voilà.
Déjà, vous étiez diplômée.
Oui, oui,
et,
oui.
Et où avez-vous fait votre école?
Alors, j'ai fait mon école dans une petite école, n'est-ce pas, qui est à L'Aigle, mais c'est une école de la Croix-Rouge internationale. Donc, si vous voulez, j'ai une formation assez très poussée, hein, puisqu'à l'époque, pour rentrer dans une école Croix-Rouge, on était obligé de signer un contrat avec la Croix-Rouge, parce que Médecins sans frontières n'existait pas. Donc, on ne pouvait être réquisitionné pour aller sur des sites quand il y avait des catastrophes. C'était la Croix-Rouge internationale. Ça fait un peu comme les pompiers volontaires, si vous voulez. Hein. On nous appelait, on était obligé de signer ça. Hein. Donc, si vous voulez, on était quand même formés. Moi, je râlais toujours parce que je disais, en définitive, on fait de nous des petits médecins. Et en plus, on nous apprend le rôle de l'infirmière. Donc, on en fait plus que les médecins. C'est-à-dire, on nous apprenait tout ce qui est, tout ce qui est l'urgence par excellence. Hein, voyez-vous, hein, fallait qu'on sache par cœur les cris, les signes. Hein. Moi, je sais qu'un jour, des trucs par cœur. Un jour, lors d'un contrôle, on me montre une radio. Et puis, on me dit, qu'est-ce que c'est? Ben, je dis, c'est une pneumonie Franche-Laubert. Hein, avec opacité, hein, triangulaire dirigé vers le île. Et le gars me dit « Ah, passé !» Et puis il m'a donné un 19 sur 20. Mais c'était des trucs qu'on nous apprenait par cœur. Hein. La grossesse extra, le coup de poignard, hein, c'est, disons, l'urgence par excellence, tout de suite appeler le chirurgien. Donc on nous donnait des réflexes comme ça qu'on connaissait par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Hein.
Bon. Donc, toujours en Normandie, vous avez eu une très bonne formation professionnelle.
Ah oui.
C'est pendant 2 ans.
3 ans.
3 ans, ah, 3 ans.
Ben oui, parce que oui. Pour le diplôme international, il fallait 3 ans. Voilà.
Et vous étiez combien par promotion dans cette école?
Pas nombreuses, parce qu'il y a une très grosse sélection, très très grosse sélection. Hein. Vraiment, on partait à une 35-36. Et la première année, c'était une sélection, hein, et on restait une vingtaine. Hein. Donc, vous voyez, c'était très, très, très... Ah non, non, non. Moi, j'ai toujours dit que pour faire des études de médecine, il faut surtout avoir de la mémoire. Pour les infirmières, c'est pareil. Hein. Mais pour être un bon médecin ou une bonne infirmière, il faut être intelligent. Hein, parce qu'après, tout ce qu'on nous a mis dans la tête, il faut savoir le découvrir humainement sur le patient en l'écoutant. Hein, voilà. Voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est disons... Mais donc, à l'époque, comme c'était une formation infirmière, puis il n'y avait pas beaucoup de médecins dans les hôpitaux. Puisqu'à Châteaudun, oui. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas de médecins résidents.
Donc le diplôme en poche, vous apprenez qu'il y a un poste à Châteaudun.
Oui.
Donc vous arrivez en quelle année ?
En 72. Mais je n'ai pas eu le poste tout de suite, parce que vous savez que dans les hôpitaux, pour qu'il y ait un poste, on ne peut pas se présenter comme ça s'il n'y a pas de poste qui est budgétisé.
Oui.
Hein ? Bon. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé pendant 6 mois à la clinique, en attendant d'avoir un poste. Et dès qu'il y a une personne qui est partie en retraite, on m'a fait signe de venir. Voilà.
Donc vous aviez 33 ans à l'époque.
Oui, c'est ça.
Si. Bon. Alors, donc, au début, donc, vous avez travaillé à l'Hôtel Dieu et très vite, vous avez migré vers le nouvel hôpital.
Oui.
Et comment... quel a été votre sentiment les premiers temps de Châteaudun? Vous connaissiez personne, enfin, vous aviez aucune famille, rien du tout.
Si, j'avais ma sœur Liliane.
Ah oui.
Chez qui j'étais venue parce que, à cause de ma santé, parce que j'étais suivie sur Paris, comme je vous l'ai dit.
D'accord, oui. Donc c'était un peu plus proche que...
Voilà. Voilà, c'est comme ça que oui. Je me suis... Parce que je pense que je ne serais pas venue à Châteaudun autrement. Je n'ose pas le dire, mais quand je venais voir ma sœur en dehors, avant d'habiter Châteaudun, je disais toujours, oh là là, c'est un trou.
Oui. Et votre sœur avait une activité ou son mari ou...
Elle avait épousé un Dunois et travaillait à la clinique. Elle faisait manipulatrice de radio.
Hein, oui.
Voilà. Donc, c'est ça. Donc, pour vous dire, c'est... Et puis après, j'ai apprécié beaucoup Châteaudun, parce que pour corriger ce que j'ai dit, parce que j'ai trouvé que c'était une ville à échelle humaine, dans le sens où on pouvait traverser la ville à pied, revenir chez soi, hein, alors que quand vous êtes dans une grande ville, vous êtes obligé de prendre soit un transport en commun pour faire... Voilà. Mais voilà. Mais c'est...
Donc, vous avez... D'abord, été à l'Hôtel Dieu pendant combien d'années avant ?
Eh bien, disons que presque... Ben, on a déménagé en 75.
Oui.
Hein, donc, on a été 2 ans à l'Hôtel Dieu. 2-3 ans.
Oui, oui.
Moi, j'ai été trop 2-3 ans.
Très vite, oui.
Oui. Et j'ai très peu connu les sœurs. J'ai dû travailler... parce qu'il y avait les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul pendant un an et demi.
Oui. Hein,
voilà.
Et lorsque l'hôpital a déménagé, les dernières sœurs, les sœurs n'ont pas suivi.
Ben non, elles étaient parties, déjà oui. Depuis au moins 6-7 mois, quand même.
Oui. Et
comment
avez-vous été accueillie à Châteaudun, vous...
Ben bien accueillie, parce que... J'ai été bien accueillie, hein. Vraiment, j'ai toujours été en admiration devant le personnel, parce que, voyez-vous, ça m'a fait beaucoup rire encore. Je crois que je ris facilement. Quand, pendant la crise sanitaire, on applaudissait le personnel des hôpitaux. Parce que moi, j'ai toujours connu le personnel dévoué. Toujours. Hein. Je pourrais citer des choses. Hein. Ça, c'est... Donc, le personnel, c'était un personnel dévoué. Ce que j'ai fait dès l'arrivée, j'ai pris conscience que... Parce que pour rentrer à l'hôpital, à l'époque, il fallait, si vous n'étiez pas infirmière diplômée d'État, il fallait avoir ce qu'on appelle un niveau. Et le niveau, ça correspondait à un diplôme. C'est-à-dire, il y avait des gens qui avaient un diplôme des femmes. Elles avaient fait coiffure, elles avaient un diplôme, un CAP de coiffeuse, d'autres CAP de couturière, et rentrer à l'hôpital. Parce que dans la fonction publique, à partir du moment qu'on a un niveau, on peut gravir les échelons, faire passer des concours. Hein. Et donc, moi, j'ai pris conscience tout de suite que ces femmes qui étaient intelligentes, débrouillardes, qui s'étaient formées sur le tas, hein, elles étaient payées comme ASH et faisaient un boulot d'aide-soignante. Mmh. Alors, dès que je suis arrivée, je les ai incitées à faire leur cours d'aide-soignante parce que je considérais que c'était injuste hein, de faire. Parce qu'au départ, elles ne voulaient pas. Et puis je leur disais, ben, vous en faites déjà le boulot, donc vous n'avez plus que la théorie. Et alors, elles m'ont suivi dans le sens où elles ont fait ça en plus de leur travail. Et c'était moi qui, j'étais sur le service de nuit, qui les entraînait ou qui leur redonnait des explications, voyez-vous, pour qu'elles puissent avoir leur diplôme. Elles ont eu toutes leurs diplômes. Donc, si vous voulez, ça a été le début... où on a eu à l'hôpital de Châteaudun des aides-soignantes diplômées. Voilà, hein, ça a été le tout début. Hein, parce que moi, je trouvais que c'était injuste, j'aime pas la justice.
Nous allons faire une pause musicale avec Jean-Marie. le Guyader. Donc, vous arrivez, maintenant, vous êtes dans le nouvel hôpital. Vous avez toujours... Moi, je vous ai connu, vous travaillez surtout de nuit, c'est ça?
Oui, oui. Oui, j'ai travaillé un peu de jour au début.
Oui.
Et puis après, on m'a proposé...
C'était votre choix?
Ah oui. Non, pas du tout. Puisque non. Moi, je suis plutôt du matin. Moi, vous savez, je me réveille à 5 heures du matin.
Oui,
hein.
Oui.
Et puis, je me suis dit, comment je vais faire? Et puis, je me suis dit, bon, ben, il n'y a pas de choix, hein, faut y aller. Hein. Bon, j'y suis allée. Mais j'avais fait promettre au chef du personnel que dès qu'il y aurait un poste de nuit, je passerai de jour. Bon. Et puis, un jour, elle m'appelle. Puis, elle me dit, mademoiselle Guyader, vous savez, j'ai un poste, vous avez de la chance, qu'elle me dit, il y a un poste en médecine, au choix, ou en chirurgie. Vous choisissez. Et puis, je lui dis, je commençais à peine à m'adapter au rythme de nuit. Hein. Bon. Puis je lui dis, mais pour me remplacer, c'est une volontaire. Elle me dit, non, on va nommer quelqu'un, comme ça. Et alors je lui ai dit, écoutez, bon, là je commence à peine à m'habituer. Hein. Et puis, moi je suis d'un tempérament, j'aime bien organiser. Puis je commençais à organiser certaines choses. J'ai dit, écoutez, je reste jusqu'à ce que vous ayez une volontaire. Et après, ben, j'ai fait toute ma carrière comme ça. Voilà. Hein. Parce que
des volontaires de nuit, il n'y en a pas beaucoup.
Non. Mais même, quand même, je vais dire une chose, c'est qu'au départ, il y en avait même pour les infirmières, il n'y en avait pas. Hein. Et c'est moi qu'un jour, qui suis allée voir le directeur en lui disant, écoutez, toute nouvelle infirmière qui arrive, il faut me la mettre 3 mois dans mon service. Hein.
Qu'elle fasse de la nuit.
Oui, 3 mois, dès le départ.
Oui.
Eh bien, donc, généralement, elle venait, elle faisait 3 mois. Puis un jour, parce qu'on avait du mal à recruter les infirmières de nuit. Puis un jour, il y a une petite infirmière qui me dit, mademoiselle, est-ce que je suis obligée de partir au bout de 3 mois? Oh, je dis, ben non, merci. Si tu restes, c'est très bien. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai eu des infirmières volontaires pour le service de nuit. Hein, parce que dès qu'elles arrivaient, je disais même, c'est très bon. Après, pour les rapports entre service de nuit et service de jour, vous savez, quand vous avez fait les deux, hein, c'est très bon. Hein, parce qu'autrement, il y avait toujours de la bagarre entre les services de nuit et services de jour. Quand je suis arrivée, elles appelaient ça l'équipe adverse. Ça donnait toute l'ambiance.
Oui. Vous étiez donc surtout en médecine, en chirurgie, en maternité, vous avez fait tous les services.
De toute façon, oui, moi j'ai tout fait. J'ai tout fait parce qu'au bout d'un an, moi, quand j'avais fait le tour d'une spécialité, eh bien, je voulais voir autre chose. Hein. Donc j'ai fait de la cardio, hein, même en service de jour. Hein. J'ai fait de la cardio, j'ai fait des urgences. Hein. Par exemple, j'ai fait les urgences à Villeneuve-Saint-Georges, hein, dans des gardes de 24 heures à Villeneuve-Saint-Georges, un très gros service. Et j'ai fait de la chirurgie. Hein. Donc, j'ai tout fait. La seule spécialité où j'ai été le moins, c'est tout ce qui est gériatrie. Moi, j'étais une infirmière d'urgence. Hein, mais j'en ai fait après. Hein. Et c'est là que j'ai pris conscience que j'étais une infirmière d'urgence. Hein. C'est-à-dire, on prend une décision, toc, toc, toc. Hein. Voilà. Mais j'ai tout fait. Et même, si vous voulez, dans certains hôpitaux, on disait que j'étais instable. Parce qu'au bout d'un an, je demandais toujours mon changement. Voilà. Donc ça a été...
Oui. Hein. Et vous avez terminé comme surveillante, alors?
Oui, 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 oui.
Surveillante générale de nuit.
Oh, pensez. Mais disons que c'est... Non, moi, quand je repense à ma vie, je pense que j'ai eu une belle vie. Parce que, je me suis donnée à mon métier, comme les gens qui travaillent dans les hôpitaux, faut pas croire, hein, ils se donnent à leur métier. Hein. Et une vie donnée, c'est toujours une vie réussie. Hein, quel que soit, hein, même je pense que dans l'industrie ou même dans les fermes, des choses comme ça, quand on se donne à son métier, hein, avec intelligence, en essayant d'améliorer, eh bien c'est une vie réussie. Hein. Pour moi, c'est ça. Alors moi, je pense que j'ai eu une belle vie. En plus, c'est vrai que j'ai eu du personnel qui m'a beaucoup apporté, hein, parce que j'avais des talents multiples, hein. Pour vous expliquer, au début, vous savez, on avait les seringues électriques. Bon. Et alors, pour les seringues électriques, un jour, j'avais une infirmière, elle venait toujours me demander pour calculer, vous savez, pour, hein, parce que quand faut pas se tromper, hein, parce que on peut l'envoyer à la mort vite fait, hein.
Oui, oui.
Bon, donc si vous voulez, j'avais une infirmière qui venait toujours, avant de mettre une seringue électrique, elle avait des scrupules, elle venait toujours me dire, mademoiselle, est-ce que j'ai bien calculé, patati, patata.
Calculer le début avec l'insuline.
Voilà.
Faut pas trop d'insuline d'un coup, parce que sinon.
Voilà, mais même autre chose, hein. Bah non, mais même alors, si vous voulez, puis un jour. J'ai dit, mais j'ai de la chance, cette fille, elle a des doutes, et vient me voir. Mais si j'en ai une qui fait des conneries, et puis qui n'a pas de doutes, hein ? Et alors c'est là que tout d'un coup, j'ai dit, il faut qu'on simplifie la chose. Il faut qu'on simplifie la chose. Et donc j'ai demandé, j'avais des infirmières qui étaient bien, vous savez, au niveau maths, hein, bon, j'avais plusieurs. Et alors je leur ai dit, écoutez, il faut qu'on arrive à calculer pour les différents pays. Pour les différents produits qu'on passe en seringue, hein, 1 mg égale 1 ml. Hein, de façon qu'on ne se trompe pas. Parce que vous savez très bien, dans les prescriptions, on vous dit faut augmenter d'un milligramme, 2 mg. Hein, bon. Donc j'avais demandé ça à 3 de mes infirmières, hein, qui étaient bonnes en maths. Moi, je suis bonne en maths aussi, je faisais de mon côté. Chacune, on a fait nos calculs. Et après, on les a confrontées. Hein. Et c'est à partir de là, je ne sais pas si vous aviez pu remarquer dans les services, qu'on avait mis, j'avais vu ça à la gare de Châteaudun, vous savez, pour les horaires, ils avaient un grand livre qu'on tournait comme ça. Alors, j'ai demandé qu'on me commande exactement la même chose. Et alors, on avait installé ça sur les paillasses, hein, avec justement les filles, elles avaient tout. On appelait ça la Bible, parce que comme je suis chrétienne, n'est-ce pas, comme c'était la référence ultime, on appelait ça la Bible. Et donc c'était resté dans notre service jusqu'au jour où le directeur m'a fait passer un message, c'était d'un autre hôpital, hein, où j'avais une élève infirmière qui était partie infirmière, et qui quand elle s'est retrouvée dans cet hôpital où il fallait refaire à chaque fois tous les calculs, elle leur avait dit, mais à Châteaudun, nous on a un truc qui est bien. On a des espèces de trucs, on tourne et on voit exactement. Donc, si vous voulez, le personnel, il participait à ça, hein, pour l'amélioration des conditions, quand on avait des choses de... Et ça, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir que, après, quand on nous avons eu, quand on nous a fait l'annualisation du temps de travail, c'est pareil, vous savez, hein, quand ils ont mis ça, bon, ben, moi, j'avais appris aux infirmières à calculer, hein. Qu'elle calcule. Parce que quand les gens comprennent, c'est plus facile de commander plutôt que quand les gens ne comprennent pas. Hein. Donc, celle qui était bonne en maths, je leur expliquais. Et quand il y avait une nouvelle qui arrivait, je lui disais, ben voilà, nous, on a l'annualisation du temps de travail parce que c'était avant tout le monde. Bon, ben, je vous explique ça en gros. Vous n'avez sûrement pas compris parce que quand on ne connaît pas, mais vous pouvez vous adresser à telle infirmière qui, elle vous accompagnera, hein, pour faire ça. Voilà. Donc, si vous voulez... participer. Et en définitive, dans les équipes, il y a beaucoup de richesses. Il suffit de savoir les découvrir. Hein. Ça, c'est certain. Hein. Donc, voilà.
Petit temps musical à nouveau. Longtemps, mais je viens de découvrir que vous étiez une grande organisatrice et quand de l'hôpital où je travaillais moi aussi, où je ce travail de l'ombre dont vous étiez l'origine, vraiment je suis impressionné.
Non, c'est le personnel, vous savez, qui est rentré dedans.
Oui.
Parce que j'aurais pas pu le faire, parce que vous savez très bien que quand on prend des décisions, si elles ne sont pas acceptées, vous allez vers l'échec. Hein?
C'est beaucoup de bon sens. Mais vous donniez de ce fait quelques cours à l'école d'infirmières
ou... Oui, quelques fois, oui.
Oui,
oui, oui. Oui, oui. Quand on me demandait. Hein, et puis aussi être juge pour leur mémoire. Puisque, M. Moreau, votre fille, elle m'avait choisi pour son mémoire. Votre fille qui est infirmière. Non, non, voilà. Mais ça, c'était ponctuel. C'était ponctuel. C'était à la demande. Hein. C'était pas... Non, non.
Donc, aussi, bon, souvenir quelques souvenirs un peu difficiles aussi de votre exercice, malgré tout. Vous disiez qu'à un moment donné, vous aviez été menacé par quelqu'un qui avait trop bu avec son couteau.
Oui, ah ben oui, la nuit. Ça. Oui. Oui. Alors ça, c'était au vieil hôpital. Au vieil hôpital.
Qu'est-ce que vous lui aviez fait pour qu'il vous menace ?
Non, au vieil hôpital, il y avait ce qu'on appelait les utilisés. Les utilisés, c'était des malades de l'HP qu'on voulait réinsérer. Hein, et qui, dans la journée, faisait le transport des linges, voyez-vous, tout ce qui est, oui. Ce que, hein, voilà, hein, vider les poubelles,
ça
des choses comme ça,
boulots.
Des petits boulots, hein. Et il dormait, au vieil hôpital, à l'ancien pavillon des tuberculeux, parce que on sait ce que, le confinement, on sait ce que c'est, n'est-ce pas, nous, en tant que, hein, à l'époque, et c'était, on appelait ça le pavillon des utilisés, hein, parce que ils étaient là, et le soir, on les enfermait, à cause, disons que c'était des malades de Bonneval quand même, hein. Bon, puis on pouvait. Alors donc ils étaient enfermés. Et alors une nuit on m'a appelé, on me dit, Mademoiselle Guader, il faut aller au pavillon des utilisés, il y a de la, ça va pas, il y a quelqu'un qui appelle par les fenêtres et tout ça. Donc j'ai pris un brancardier avec moi, hein, parce que fallait ouvrir les portes, les fermer derrière, n'est-ce pas. Et j'arrive donc effectivement. J'ouvre la porte, et puis je dis, ben, qu'est-ce que... Parce que je suis quelqu'un... J'ai pas peur, moi. Hein, j'ai pas peur. Comme je dis toujours, mon cerveau, il fonctionne... Mon cerveau fonctionne le mieux dans les situations difficiles. Il fonctionne vite et bien. Bon, donc j'ai poussé la porte, puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait des lits qui étaient retournés, il y avait un type qui saignait... Et alors, il y a un type qui se pointe devant moi, hein, et puis qui me dit, c'est moi qui ai fait ça. Et alors je dis à mon brancardier qui était derrière et qui fermait les portes au fur et à mesure, lui dit, vous n'entrez pas, vous n'entrez pas. Alors il me dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, la procédure. La procédure, c'est que quand on, vous savez, hein, bah, c'est des procédures. Bon, et puis le gars, il a fermé la porte, et alors il m'a prise, hein. Et alors, à l'époque, on avait des tabliers, vous savez.
Alors, la procédure, c'est que le brancardier a appelé les gendarmes.
Non, il a appelé le directeur, d'abord.
D'abord.
Bon, en disant, monsieur le directeur, il y a du grabuge au pavillon des utilisés. Le directeur a dit, appelez mademoiselle Le Guader. Il a dit, mais elle y est. Ah bon? Alors, appelez la gendarmerie. Donc, si vous voulez, j'ai eu ce type qui m'a prise... On avait des tabliers, vous savez. Alors, il me prenait comme ça, parce qu'il était grand, c'était une armoire à glace. Hein. Et alors, il me soulevait pour que j'aie mon visage contre lui, vous savez, pour me parler. Et je me rappelle toujours, je ne sais pas de combien il me soulevait, mais j'avais les pieds dans le vide, vous savez. Et alors, j'étais là. Et alors, en plus, il me dit qu'il avait son couteau, hein. Parce qu'il me disait qu'il était bouché, qu'il avait bien égorgé des moutons, voyez-vous, pour assurer. Bon. Et comme j'ai le cerveau qui fonctionne, hein, tout d'un coup, je me suis rappelé de la formation qu'on a, vous savez. On nous dit, quand vous avez un agité, vous lui parlez pas fort, hein, pour qu'il écoute. Vous lui parlez doucement. Il faut avoir un contact personnel avec lui. Alors donc... Je vous dis, j'ai le cerveau qui fonctionne, tout ça, ça m'est revenu, des trucs que je ne pensais plus depuis que j'avais appris ça. D'un coup, j'ai commencé par lui demander, j'ai dit, comment vous appelez-vous? Il me dit, je m'appelle François. Ah, François. Je dis, connaissez-vous l'histoire de votre saint patron? Il dit, je m'en fous. Bon, j'ai dit, écoutez, pourtant elle est belle, elle est belle. Et puis il aimait bien les animaux. Et alors j'ai commencé à lui raconter l'histoire de saint François. Mais je ne la connaissais pas tellement, l'histoire de Saint-François. J'en ai ajouté. Je l'ai embellie.
Vous avez brodé.
J'ai brodé, oui, j'ai brodé. Alors, de temps en temps, il écoutait, mais de temps en temps, il reprenait son agressivité. Hein, il me reprenait. Hein, et puis, comme ça. Mais il y avait un type qui l'avait blessé à côté. Et alors... À un moment, je lui ai dit, écoutez, reposez moi, parce que je voudrais quand même voir le monsieur là. Il n'a pas l'air d'être bien. En définitive, c'était très superficiel. Donc, je me suis penchée vers lui. Et puis, je l'ai épongé un peu avec ce que j'ai trouvé. Mais cette nuit-là, je crois que j'ai cru que j'allais mourir, monsieur Michel. Pour la première, parce que je me suis même dit, toujours froidement, je me suis dit, bah zut, alors, ma mort sera un fait divers. Voilà ce que j'ai pensé. J'ai même pas pensé, moi chrétienne, pieuse, disons. Certains diront bigote. Bon. Hein? Eh bien, j'ai même pas pensé à Dieu. J'ai pensé que ma mort serait un fait divers. Parce que c'est vrai, on pense rarement à sa mort. Mais est-ce qu'on pense que à mourir assassiné? Non, non, non. Donc, si vous voulez, ça a été... Et puis, au bout d'un moment, la gendarmerie est venue. Hein? Alors, ils avaient des... Pour éclairer, ils avaient des gros projecteurs, hein? Pour éclairer. Et puis, le brancardier, il est remonté, puis à travers la porte, il m'a dit, mademoiselle, il faut faire descendre le monsieur. Parce que le monsieur, il voulait, enfin, comme tous les gens, vous savez, il voulait avoir une voiture, il voulait partir, il voulait, bah, vous savez, bon. Donc, alors je lui ai dit, tenez, bah, ça y est, vous allez avoir ce qu'il veut. Alors, il a voulu descendre qu'avec sa copine, qui était moi, n'est-ce pas? Moi, j'étais sa copine. Alors, il a fallu que je descende devant lui, hein, n'est-ce pas? Avec presque le couteau sous la gorge, de temps en temps, puis vous savez, il me tenait, hein, toujours par ma ceinture, là. Mais là, je pouvais poser les pieds par terre, hein, comme. Et alors, donc, je suis descendue, puis dès que je suis descendue, hop, il y a deux gendarmes qui lui sont sautés dessus, qui l'ont foutu bas. Et puis, comme j'avais du sang sur moi, parce que, mais c'était pas mon sang, c'était le sang du monsieur qui avait été blessé, ils me disent, vous êtes blessé. J'ai dit non. Bon, ben alors, à ce moment-là, allez chercher de quoi nous le calmer. Vous savez, on m'a même pas. Et alors, donc vous savez, par derrière, hein, je suis allée, pour aller chercher une injection, parce qu'on savait ce que c'était, nous. Allez, bah, faut dire que c'était plus simple autrefois la médecine. Hein, vous savez.
Les neuroleptiques pour le calmer.
C'est ça. Et peux-je dire que j'ai pris un trocard, c'est-à-dire une grosse aiguille, et je l'ai piqué à travers ses vêtements, ce qu'on fait jamais, n'est-ce pas? Mais alors là, j'ai paf, hein, et puis j'ai enfilé clac, donc si vous voulez, pour le calmer. Et donc, bon, après, ils sont partis. Croyez-vous, il y avait le directeur qui était là, il y avait ça. Pensez-vous qu'ils aient eu une petite parole pour moi, hein, à partir du moment qu'ils savaient que j'étais pas blessée?
Maintenant, nous l'avons. On vous remercie beaucoup de l'entretien que nous avons eu avec vous. Et vous disons de bien profiter de votre retraite.
C'est ce que je fais.
Déjà, vous savez, vous êtes toujours été très active.
Non plus maintenant.
Dans les paroisses, à la librairie Nazareth, et j'en oublie beaucoup. L'association, comme vous dites, que nos différences deviennent richesses, là, vous l'avez vécu toute votre vie, et une vie très riche. Encore merci, Monique.
Bon, bah...